Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h, jour J pour la réforme des retraites. On va beaucoup en parler aujourd'hui avec toute la bande réunie autour de la table et notamment Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Vous allez avoir fort à faire aujourd'hui car les messages s'amoncellent un peu comme les poubelles à Paris sur l'application RMC.
Mais on va ramasser les infos nous.
Écoutez, et vous allez nous les donner, vous êtes bien aimables. On est également avec le journaliste Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Estelle.
La militante associative Anne-Sophie Saint-Père, salut Anne-Sophie.
Salut, bonjour tout le monde.
Et puis le journaliste RMC, Fred Hermel, salut Fred.
Salut Estelle, salut à toutes. Salut
et bien sûr, on est avec vous également au 32-16 pour réagir à cette réforme des retraites. Ce jour J, on sera également en duplex avec Sébastien Krebs, notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale, et puis Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC, prêt à dégainer, à arriver en plateau à tout moment s'il se passe quelque chose. Jour J donc pour la réforme des retraites. Après plusieurs semaines de tractations, de mobilisations, de revirements, Emmanuel Macron peut-il encore sortir gagnant? On attend vos réactions. À midi et demi, la petite phrase de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Si la réforme est votée, la contestation ne cessera pas, d'accord ou pas d'accord avec lui. À 13h, l'Union Européenne qui va obliger désormais les propriétaires à rénover leur logement avant de les vendre. Bonne ou mauvaise idée? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On reviendra donc justement sur la grève des éboueurs. 13h45, ce sera la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Stéphane qui nous avait dit il y a 3 jours qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait laisser notre argent à la banque. Mais ça a un peu changé depuis ces 2 derniers jours. Et Stéphane nous dira où on en est et s'il faut justement sortir notre argent des banques. À 14h, selon le Centre National d'Études des Systèmes Scolaires, il faudrait faire disparaître les moyennes et les comparaisons entre élèves. Faut-il supprimer les notes à l'école? On attend vos réactions, on en parle à 14h.
RMC, Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, RMC Story, et ça y est, vous le savez, c'est le jour J, on en parle depuis des mois, et c'est donc aujourd'hui que le projet de loi sur la réforme des retraites devrait être voté à l'Assemblée nationale. Une journée, Rémi, qui promet d'être très très mouvementée, et qui a déjà commencé dans ce sens.
Fébrilité, c'est le mot qu'il faut retenir pour qualifier de ce qui se passe en ce moment. Depuis ce matin, Emmanuel Macron a multiplié les consultations avec les chefs de sa majorité, à quelques heures d'une séquence parlementaire, on le sait, décisive pour la réforme des retraites, à peine sorti de l'Élysée, où ils avaient été conviés pour une réunion matinale vers 8h du matin. Les responsables du camp présidentiel sont à nouveau réunis depuis quelques minutes au palais présidentiel, à 3h de la séance publique au palais Bourbon. Car si le Sénat a sans surprise voté ce matin en faveur de la réforme, 193 voix pour contre 114, le suspense est encore entier sur l'issue, voire même sur la tenue d'un vote à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, vote ou 49-3. Selon certaines sources, Emmanuel Macron pourrait être en train de prendre sa décision en ce moment même. D'après l'entourage présidentiel, les téléphones continuent de chauffer avec les députés LR et ceux du groupe centriste, eux qui sont déterminants leur vote pour que ça passe ou pas. Et la première ministre, Elisabeth Borne, fera sa recommandation en début d'après-midi avant la décision finale. Mais du côté des députés de droite, les Républicains, dont l'apport encore une fois est décisif, on est entre 30 et 35 pour, une vingtaine contre, ce qui rend un vote très, très risqué. Ça, c'est ce que dit le chef des sénateurs LR, favorable au texte, Bruno Retailleau.
Et c'est vrai que ça fluctue depuis ce matin, que ce soit, enfin, on entend beaucoup de choses sur RMC.
On a des chiffres, on nous dit, ça jouerait à 4 ou jusqu'à 7 voix, mais c'est très peu.
Et les choses sont encore en train de changer, et évidemment, on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe grâce à Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC, et Sébastien Krebs, notre envoyé spécial du côté de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron peut-il encore sortir gagnant de toute cette affaire, Fred Hermel?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quel que soit le résultat, si ça ne marche pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas le vote et qu'ils sont obligés de passer par le 49-3, ça sera un échec pour Macron. Il s'était présenté comme le président des réformes. Ça restera la seule réforme possible. Il l'aura imposé. Il n'aura pas réussi à trouver une majorité. Par contre, si ça passe, s'il y a un vote, c'est la victoire d'Elisabeth Borne. Parce qu'Elisabeth Borne, en fait, simplement parce que Macron est impliqué, mais depuis 2 heures, là, enfin, ou depuis hier
soir.
Oui,
c'est ça, on l'avait pas vu.
On l'avait pas vu, pardon, du tout. C'est là,
un
du tout.
Il était derrière, il tirait les ficelles.
Attends, là, on parle sur l'image. La question, va-t-il sortir gagnant ou pas? C'est l'image qui va rester. Si ça passe, bravo Elisabeth Borne, parce que elle est chef du gouvernement, mais elle est surtout, enfin, aussi chef de la majorité. Et donc, ça veut dire que cette petite dame, moquée au début, etc., si elle réussit, elle, à trouver la majorité pour faire voter cette loi qui est très importante pour l'histoire même des deux quinquennats, et ben là, la gagnante sera Elisabeth Borne, et le perdant, si ça va pas, le perdant ce sera Emmanuel Macron. Donc en fait, il y a pas grand chose pour lui, quoi.
Ouais, c'est ça. Il est perdant à tous les coups. A priori, quand même, Anne-Sophie Saint-Père, on se dirigerait là dans quelques heures vers un vote et non pas un 49-3. Est-ce que ça, au moins, c'est une bonne chose? Emmanuel Macron l'a répété, il veut aller au vote.
Alors je sais pas si c'est, enfin. Effectivement, ça, en termes d'image, c'est mieux qu'un 49-3. Reste que tous les autres outils de brutalité parlementaire ont été utilisés au cours de la procédure. Et que le maximum qu'Emmanuel Macron et son gouvernement puissent gagner, ce sera un vote serré. Par contre, moi, je suis assez inquiète de ce que ça va envoyer en termes de messages sur la confiance dans les politiques, sur la crédibilité des politiques.
Après, si c'est voté, c'est voté, hein.
Mais qu'est-ce que les Français ont vu depuis le début? C'est-à-dire qu'on leur a annoncé une réforme parce qu'il fallait sauver le système des retraites. Puis quand on va regarder dans les documents, en fait, c'est quand même plutôt présenté comme quelque chose pour compenser des baisses d'impôts et de cotisations. On leur a annoncé un minimum à 1200 euros pour tout le monde, ça a été démonté. On leur a annoncé qu'il n'y avait pas de perdants. Bon, en fait, ça a été largement démonté. Elle fait des perdants, cette réforme. Donc en fait, on n'a pas arrêté à chaque étape... Et des perdantes, évidemment. On n'a pas arrêté à chaque étape de passer en force. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils vont retenir un président qui est élu, qui reconnaît qu'il est élu contre le Rassemblement National et qui reconnaît qu'il n'est pas élu que sur son programme et qui aujourd'hui passe en force en disant c'était dans mon programme, donc vous m'avez élu pour ça. Donc en fait, tout ce qu'on pouvait avoir en termes de confiance en politique et s'effondre aujourd'hui. Alors c'était déjà pas très élevé, mais moi je crains un peu pour l'avenir, pour la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Et à mon avis, les seuls qui sont en train de gagner un peu aujourd'hui, ce sont les députés républicains et centristes qui sont en train de négocier des choses pour leur
vote. Qui sont en minorité, mais qui font la loi, en fait.
Mais là, 90% des actifs en France s'opposent à cette réforme. Elle passe en force. Elle passe dans des conditions où on a refusé...
Elle n'est pas passée, hein.
Ouais, elle risque de passer en force. Dans des conditions où on a refusé de prendre le temps de discuter de toutes les alternatives, ça va laisser une tâche assez difficile sur les institutions.
Thierry Moreau, Emmanuel Macron a laissé planer la menace de la dissolution. Oui. Est-ce qu'à minima, que la réforme passe ou pas, il doit changer son gouvernement?
Je pense qu'il y a quelques têtes qui vont changer après cette histoire, parce qu'il y a des point faible dans mais même au-delà du problème de la réforme des retraites, on voit que le ministère de l'Éducation, par exemple, il y a des points de faiblesse, etc. En revanche, moi, je pense qu'il a gagné cette part. Il a déjà gagné parce qu'il y a deux solutions. Soit la loi passe à une voix près. Je rappelle que la République en 1875 a été votée, inscrite dans la Constitution à une voix près. Je rappelle que Sarkozy avait voté la Constitution, le changement de Constitution à une voix près en 2008. Donc une voix près, ça suffit, c'est démocratique, c'est voté, c'est plié. Oui. Premier point. Si jamais il ne va pas au vote, moi je pense qu'il va aller au vote. Mais si jamais il va pas au vote, 49-3. Je suis désolé de t'entendre dire que c'est de la brutalité, du forçage. Ça fait partie des outils politiques.
Mais c'est quand même
et ça m'énerve.
Non, mais Thierry,
excusez-moi. Ça m'énerve aujourd'hui d'avoir une partie de la classe politique fraîchement élue, ne connaissant pas les mécaniques parlementaires, se plaignant d'une CMP, du 49-3. Ce sont les outils parlementaires.
C'est pas pour ça qu'ils sont pas
elle a marché, elle a fonctionné plusieurs fois sous la Ve République, le 49-3 aussi. Ce sont des outils parlementaires.
Et on a
une opposition de gauche, excusez-moi, qui est vent debout en disant c'est des passages en force. Non, c'est un outil parlementaire.
Mais attendez,
et surtout,
il n'y a pas que la gauche. Il n'y a pas que la gauche qui dit que c'est un passage en force, oui, hein, Thierry.
Je rajouterai un dernier élément. Ceux qui aujourd'hui nous disent que le texte qui est soumis au vote est un amalgame avec des compromis avec les LR. Je vous rappelle que ce sont les mêmes qui font la promotion de la 6e République avec une proportionnelle intégrale. Proportionnelle intégrale, ça ne peut passer que par des compromis entre partis.
Absolument.
Que par faire des bouts de chemin avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Ce qui se fait actuellement, c'est la mise au centre du jeu du Parlement. Et si ce texte passe, ce sera la victoire du Parlement.
Mais là-dessus, tu as raison, c'est-à-dire que si le texte passe, bon, a priori, il n'y a plus rien à dire. Mais je suis désolée, hein, le 49-3, alors que tu as 93% des actifs qui vont donc travailler 2 ans de plus, qui sont contre la réforme, que tous les syndicats, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une intersyndicale unie, sont contre la réforme, la majorité des Français est contre la réforme, et tu fais un 49-3 Alors que tu as été élu en disant qu'en plus le résultat du deuxième tour t'obligeait à écouter les Français, ben non, il y a un problème.
Ça fait partie des outils parlementaires.
Oui,
parlementaire.
Outil, oui,
mais c'est
possible.
Un outil brutal.
Ça, c'est
désolé,
un autre problème. Et je pense que très vite,
Thierry, mais, enfin, je pense que très vite, il faudra appeler chaque député en leur disant attention, votre circonscription, vous inquiétez pas, aux prochaines élections, on vous embêtera pas, vous allez être élu. Enfin, il y a des marchandages, c'est bien parce qu'il veut éviter le 49-3.
Je pense qu'on est déjà dans l'après. Je pense que dans 15 jours, tout le monde aura oublié que ce sera passé en 49-3. Les oppositions les plus radicales se seront déjà éteintes, mais c'est un deuxième sujet, on en parlera tout à l'heure.
Exactement.
Mais je peux vous dire que je pense que dans un an, on se foutra de savoir si c'est passé en 49-3, la réforme sera adoptée.
Oui, non, mais peut-être, mais en tout cas, là.
Je pense que les gens, ils ont envie qu'on passe à autre chose,
de
là, maintenant.
Manière, non, mais ce que retiennent les gens, c'est que cette réforme, elle a été mal amenée, elle est mal ficelée.
Ah, mais ça, on est d'accord.
Elle ne plaît à personne.
Mais ça,
personne n'est content de cette réforme. Je suis même sûr que Macron n'est pas content de cette réforme.
Mais bien sûr, à un moment, il faut tourner la page.
Donc, il ne faut pas tourner la page. Il aurait peut-être fallu, peut-être, effectivement, négocier un peu plus avec les syndicats.
C'est trop tard. Maintenant, il faut tourner la page, passer à autre chose.
Mais d'accord, c'est la faute de qui?
Pardon? Ah, ben c'est la faute, je pense, du gouvernement qui l'a mal expliqué, la réforme qui était mal construite, le fait d'avoir bypassé les corps intermédiaires, de ne pas avoir travaillé avec Laurent Berger, de ne pas être revenu à une réforme à point. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne va pas. Et maintenant, il faut tourner la page.
Rémi sur l'appli RMC. Ouais. Après, on prendra Delphine qui patiente au standard.
Et chacun, il va de son pronostic. Hein. Samira, notamment sur Direct Studio, qui nous dit bonjour Estelle, Emmanuel Macron va sortir gagnant parce que la réforme va passer. Je ne crois pas aux soi-disant doutes sur les voies manquantes. La droite va voter. Les députés de la majorité vont voter. Les doutes sont une méthode couée pour faire croire qu'elle ne va pas passer. Il n'y aura pas de dissolution. Ce serait trop risqué pour le pouvoir. Voilà, ça, ce sont les pronostics de Samira. Et puis, il y a Rally qui nous dit « Bonjour Estelle et toute l'équipe. Cette réforme des retraites sera une plaie qui ne se refermera jamais pour Emmanuel Macron. Les syndicats et le peuple voudront lui faire payer jusqu'au bout. »
Alors, on est avec Delphine qui nous appelle du Morbihan, de Lanester dans le Morbihan. Bonjour Delphine.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Ouais, voilà, je pense que Macron, de toute façon, malgré qu'il va passer sa réforme, il sera perdant. Parce que les gens vont pas oublier, il y a de la colère. Et la colère, elle va se ressentir après dans les urnes. Alors, malheureusement, je pense des extrêmes, ce qui sera pas mon cas. J'ai pas voté Macron, j'ai voté blanc. Malheureusement, le blanc ne compte pas, mais je suis très en colère contre cette réforme. J'ai plus confiance, ni aux politiciens, ni aux mes députés. Et même si je vais aller voter, je vais continuer à voter blanc parce que pour l'instant, personne ne représente le peuple. Et cette réforme montre qu'on ne nous a pas écoutés dans les rues. Je n'ai pas pu aller manifester dans toutes les manifestations parce que je suis assistante familiale et que le congé des enfants, compliqué. Je ne peux pas y aller.
Oui.
Dans les manifestations, on voit de toutes catégories socio-professionnelles et on en parle, que qu'on soit syndiqué ou non. De cette colère qui gronde. Donc peut-être qu'après il y aura encore d'autres manifestations beaucoup plus virulentes, ce que je pense pas, mais en tous les cas ça se retrouvera après sur les urnes.
Ouais, et pour vous, il ne peut pas sortir gagnant de toute cette histoire. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous. Il fait quel temps dans le Morbihan?
C'est très bon, on a du soleil.
Bah, bien sûr.
C'est très bien.
Bah, oui, comme chaque jour en Bretagne. Hein. Bah, voilà, bien sûr, exactement. Delphine, comme d'habitude. Et bah, écoutez, profitez bien de ce grand soleil. Merci Delphine d'avoir été avec nous. Delphine soulevait un point que tous les syndicats ont soulevé, notamment Laurent Berger et Philippe Martinez de la CGT. C'est-à-dire que là, on sent la contestation monter. Oui, la réforme, elle va certainement passer. Mais en revanche, les prochaines élections, ça risque d'être la douche froide, en fait, et la montée des extrêmes.
Je n'ai pas d'avis très clair là-dessus parce que je suis un peu obligé de reconnaître que Thierry a raison dans le fait la trace que va laisser. Une fois que ce sera passé, les gens vont passer à autre chose. Je pense vraiment quoi.
Bon, enfin, il voulait laisser une grande trace dans l'histoire. Je suis sûr.
Non, mais oui.
On étudie cette réforme dans les livres d'histoire dans 20 ans.
Voilà. Non, je pense que Macron restera comme le président qui a amené Marine Le Pen au pouvoir. C'est le plus gros risque pour lui aujourd'hui.
Mais c'était ma question là.
Oui, voilà.
D'accord. Bon.
Mais les élections. Alors quelles élections tu parles? Ça va. Tout va dépendre en fait s'il y a dissolution ou pas. Quelles seront les prochaines élections? Parce que s'il y a dissolution, là, ça peut se payer cher. Après, si c'est pour la prochaine présidentielle, c'est dans 4 ans.
Bah oui.
C'est dans 4 ans.
N'oublions pas qu'il aurait dû en 2017 qu'on aurait eu le Covid, qu'on aurait la guerre en Ukraine, etc. Ça boule
tellement de choses. Et surtout, il peut s'emparer, fois cette page tournée qui est en train de se tourner rapidement, il peut s'attaquer à l'emploi, il peut s'attaquer au pouvoir d'achat. On a une crise bancaire qui commence à pointer le nez. Je peux vous dire qu'il y a des sujets sur la table, il y a des sujets sur lesquels beaucoup de choses peuvent se passer avant les prochaines élections.
Absolument. Voilà, donc bancaire, Bruno Le Maire nous a dit qu'il fallait nous inquiéter. Donc,
justement, pour s'inquiéter.
Exactement. Arnaud Benedetti est notre invité sur ce débat, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Arnaud, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, vous savez que là, on fait tous nos petits paris, nos petits comptes d'apothicaire. Qui êtes, évidemment, dans la politique depuis de très très nombreuses années, ça va passer ou pas cette réforme?
Je n'en sais strictement rien, en l'occurrence. Je ne prends aucun risque. Ce qui est sûr, c'est que, au dernier comptage, ça apparaît, en effet, pour l'instant, assez serré. Après, vous savez, dans ce type de situation, on sait que depuis quelques jours, et on l'a vécu par le passé, l'exécutif essaye d'aller chercher les parlementaires un par un, avec les dents, d'une certaine manière. Donc, on peut imaginer que ça pourrait passer, mais ça passera ric-rac. Après, la vraie question, c'est de savoir ce qui va sortir de la réunion qui est en train, je crois, de se dérouler à l'Élysée, entre les chefs de la majorité. Est-ce que Emmanuel Macron va aller au vote ou va-t-il faire usage du 49-3? Moi, depuis le début, je pense qu'il fera usage du 49-3.
Jusqu'à
présent, manifestement, il ne souhaite pas utiliser cette arme constitutionnelle. Il y a une prise de risque. Il y a quand même une prise de risque. Le 49-3 sécuriserait d'une certaine manière le vote, même si mécaniquement, je pense qu'il entraînerait le dépôt d'une motion de censure.
Ben oui, et puis vous dites que ça sécuriserait le vote, mais c'est quand même l'assurance d'avoir une grosse contestation dans la rue, le 49-3. Ça veut quelque part dire aux Français je me fiche totalement de ce que vous pensez et je vais contre vous, quoi.
La réalité, c'est que le pari, j'allais dire, moi je parle d'une manière clinique en l'occurrence, c'est que le pari que fait Emmanuel Macron, c'est de considérer qu'une fois le texte adopté, il y aura un mécanisme ou un effet psychologique qui entraînera une démobilisation. Alors, c'est un pari, hein. Il est comme tout pari d'une certaine manière risqué. On voit quand même depuis quelques jours que les mobilisations tendent à être moins importantes, mais moi je pense que ça laissera, si vous voulez, un impact sur le fond, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite, si jamais le texte était adopté. Je ne crois pas à une recrudescence des mobilisations, je peux me tromper, mais ça laissera en effet, disons, un impact sur cette défiance, cette méfiance quand même très forte aujourd'hui de larges segments de l'opinion dans les institutions et dans le président de la République. Vous savez, il y a eu, il y a une semaine, le baromètre de la confiance qui a été publié par le Cevipof, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion publique française, qui est très intéressant et qui chaque année mesure la confiance dans les institutions. Et quand on regarde les résultats de ce baromètre, ils sont en effet particulièrement inquiétants les institutions et bien évidemment aussi pour celui qui est en charge des institutions, qui est le président de la République.
Est-ce que de toute façon le président de la République est obligé de faire des changements, à partir de demain, qu'il y ait 49-3 ou pas 49-3?
Ben, tout dépendra du résultat du vote. Il est évident que si ce soir le texte n'est pas adopté, on rentre dans une séquence politique qui sera extrêmement incertaine, où la première ministre, Madame Borne, sera fortement fragilisée. D'ailleurs, j'entends déjà une petite musique au sein même de la majorité, notamment venant du groupe Horizon, où on considère que la méthode Borne ne marche pas. Donc clairement, si ce soir, à 17h30, le texte n'était pas adopté, il y aurait vraisemblablement une question qui se poserait sur le destin de la Première ministre.
Mais si ça passe, elle est renforcée.
On verra bien. Tout dépendra finalement de la suite des mobilisations sociales dans la rue. Mais il est clair qu'on sait très bien que le président de la République aime de temps à autre faire des réglages à l'intérieur de son équipe.
Là, ce ne sera pas un réglage.
Donc on verra ce qu'il en est.
Et il va changer la voiture, carrément. Parce que là, à mon avis, il y a plus que des réglages à faire.
Ce ne sera plus une voiture thermique.
Oui, merci beaucoup Arnaud Benedetti, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis on continue à faire nos petits comptes d'apothicaire. Oui, Rémi?
Pour l'instant, pas de fumée en provenance de l'Elysée.
Ni blanche, ni grise.
Non, rien.
Non, la fumée, ça pollue, vous le savez.
Non, rien.
Allez, on va terminer avec Yves qui nous appelle de Vénissieux. Yves, qui est technicien informatique. Salut Yves.
Oui, bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous. Allez-y Yves.
Merci. Je voulais d'abord commencer par une petite généralité que je pense que beaucoup de personnes ont observée. Est-ce que M. Macron va s'en sortir gagnant? Moi, je pense que la réponse est oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, depuis le premier mandat, c'est quand même le gouvernement anguille. Et n'oubliez pas que quand c'est une information qui est mal accepté, on a des représentants du gouvernement qui viennent sur des plateaux pour nous expliquer qu'on avait mal compris. C'est de la redondance, de redondance, de redondance, de redondance. On est d'accord. Ouais, aujourd'hui, les gens sont dans la rue, mais je vous rappelle quand même que pour la réforme de retraite, il y a eu peut-être M. Véran, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui avait expliqué qu'on l'avait mal compris. Bon, oui. Visiblement, il y a un problème dans sa com, premièrement. Ensuite, deuxièmement, si ce texte passe, moi, il y a un truc qui me fait rire dans la démocratie française, ce sont les votes. Parce que je vous rappelle que le texte, là, qui est réformé, c'était un texte qui était dans le marbre. C'était une loi. Donc demain, on va nous dire, ah mais il a été voté, c'est terminé maintenant, c'est la loi, vous savez. Ben, vous savez ce que la solution, ce que c'est? C'est qu'une fois qu'il sera voté, par un 49-3 ou autre chose, vous reproposez un texte et vous le refaites voter pour revenir en arrière. Vous savez quoi? C'est la loi, s'il est voté, il passe.
Jamais une réforme des retraites, jamais on est revenu sur une réforme des retraites, c'est jamais arrivé.
C'est
jamais arrivé.
C'est la capacité à pouvoir revenir.
Oui, mais c'est ce qu'on... Oui.
Et ben on la vote. Eh ben ouais. Non mais attendez, on nous dit qu'on peut pas revenir sur les lois. On est en train de.
C'est pas. Non, on peut, mais personne ne le fait parce qu'au final, tout le monde sait que de toute façon, il faut les réformer ces retraites.
C'est la possibilité légale de le faire.
Oui, mais personne n'a jamais fait.
On sous-entend que légalement, c'est impossible. C'est pas vrai. Ensuite, vous voudrez.
Marine Le Pen,
à l'instant, elle-même dit que lors de la prochaine alternance, donc elle se voit comme étant la prochaine alternance, elle reviendra sur la loi, sur la réforme. Filles, donc.
Oui, mais parce qu'elle prépare déjà les prochaines élections présidentielles. On peut revenir sur la loi, ça, y a pas de souci, mais personne ne l'a jamais fait parce qu'en fait, évidemment,
ils sont tellement très contents d'avoir.
De toute façon, comme tout le monde est toujours contre la réforme des retraites, bah, une fois que quelqu'un d'autre l'a fait passer, vous êtes bien content que finalement elle soit passée.
Exactement.
Et que vous n'ayez pas eu à vous mouiller. Merci Yves d'avoir été avec nous. On va terminer Rémi avec des messages et puis le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, j'ai ce message d'Alex qui nous dit: tout le monde trouve aujourd'hui la voie référendaire, parce qu'on ne l'a pas évoqué, comme étant une solution démocratique. N'importe quoi, tout le monde votera pour la retraite à 50 ans, voterait pour une retraite à 50 ans, pour une durée du travail de 15 heures par semaine, pour des pensions multipliées par deux, sans poser de questions de conséquences. Avec la logique référendaire, on aurait, allez, ça me fait rire, Nabila, ministre de la Culture, Franck Ribéry, porte-parole. La démocratie directe, elle s'adresse à une population politisée et non pas à des TikTokers. À bon entendeur.
Alors, le résultat de notre sondage sur Twitter, Emmanuel Macron peut-il sortir gagnant de cette histoire?
C'est non pour une majorité assez imposante, hein, quand même, pour 66% des personnes interrogées sur nos réseaux sociaux.
Je pensais que ce serait plus.
Ah, 66, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal, mais c'est pas non plus écrasant. Non. On continue à parler de cette réforme des retraites dans un instant avec la petite phrase de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Il l'a dit, hein, la mobilisation continuera même si la réforme est votée. D'accord ou pas d'accord avec lui? On en parle dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 31 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h, comme chaque jour, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui Rémi Barret, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. On va évidemment continuer à parler de la réforme des retraites votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une majorité de Français et l'ensemble des syndicats sont contre ce texte du gouvernement. Et Laurent Berger, le leader de la CFDT, l'a annoncé ce matin, la mobilisation continuera même si la réforme est votée. Écoutez.
Ah ben, si la réforme est adoptée, la colère et la contestation de cette réforme ne cesseront pas. La CFDT, elle appelle à ce qu'on continue de porter ce qu'on a réussi à faire dans cette mobilisation extrêmement digne, c'est-à-dire les préoccupations du monde du travail.
Mais dans la rue ?
Mais on le décidera ce soir ensemble, ou demain ensemble avec les autres organisations syndicales. J'ai envie de vous répondre en deux temps. On va pas faire des manifestations pendant 6 mois pour finir à 15 derrière une banderole. Ça n'a pas de sens. Mais je vais vous répondre aussi qu'il n'est pas envisageable, après la colère qui s'exprime et le sentiment quand même de mépris qui est ressenti, que du jour au lendemain il se passe rien dans les semaines à venir d'un point de vue intersyndical. Il y aura une suite et les conditions de la suite, on en discutera ensemble. Mais non. Il y aura une suite, c'est évident.
Est-ce que les Français sont d'accord avec Laurent Berger, Rémi ?
Tout à fait. C'est ce que révèle une enquête Elabe pour BFM TV publiée hier. D'après elle, donc, 6 Français sur 10 souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive après cette journée du 16 mars, même si les députés votent le texte ou même si le gouvernement utilise l'article 49.3 de la Constitution pour le faire passer. Une large majorité de la population, 67% d'ailleurs, approuve toujours la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. Et bien qu'en léger recul, moins 2 points par rapport au précédent sondage du 10 mars, l'opposition à la réforme des retraites reste largement majoritaire dans le pays, hein, 68%. Enfin, l'option d'un recours au 49-3 au moment où l'on parle, elle n'est toujours pas écartée, cette option. Eh bien, elle est plus que jamais rejetée. 80% des personnes interrogées se disent hostiles à son utilisation pour faire passer la réforme. Toutes les catégories de la population s'accordent sur ce dernier point. y compris les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Et si il pouvait participer à un vote de motion de censure après l'utilisation du 49-3, 55% des Français se prononceraient pour, et donc pour faire tomber, le gouvernement d'Elisabeth Borne.
Si la réforme est votée, la contestation ne cessera pas. D'accord ou pas d'accord avec Laurent Berger, le leader de la CFDT, Thierry Moreau.
Alors, je suis pas d'accord. Je pense que la contestation cessera très très vite. D'abord, faut quand même dire une chose, c'est que même si le texte est adopté et que finalement les syndicats auront perdu la bataille, un des grands personnages qui sera ressorti de cette séquence, c'est Laurent Berger. Il a eu une position extrêmement digne, très constructive, avec respect des institutions, etc.
C'était très proche d'Emmanuel Macron avant.
Absolument. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, je pense qu'une grande... Alors, les sondages, c'est formidable, mais c'est... je n'ai jamais oublié que c'est une photo à un instant T. Je pense que si on fait le même sondage dans 15 jours, une grande partie des Français souhaitent qu'on passe à autre chose, notamment la question du pouvoir d'achat, qui est quelque chose de plus prégnant aujourd'hui pour les ménages français. Il y en a qui n'arrivent pas à se nourrir, n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Une crise bancaire qui se pointe le nez et qui pourrait avoir aussi des conséquences sur ce pouvoir d'achat. On a juste une guerre aussi pas très très loin. Je pense que les gens, ils veulent qu'on passe à autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'unité syndicale va se briser. Laurent Berger n'est pas, même si aujourd'hui il fait un peu façade jusqu'à la réunion de ce soir ou demain, il n'est pas pour une poursuite, une radicalisation du mouvement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va se fracturer en deux.
La CGT va changer de leader syndical très bientôt. Donc de toute
oui,
façon,
et on peut avoir à la tête, ou en tout cas parmi ces radicaux qui risquent de mener des mouvements violents, la CGT du Sud. On a vu quand même un leader CGT du Sud dire que si le texte était adopté, il allait tout brûler. Tout brûler quand même, hein. On est juste en démocratie, mais c'est pas grave.
Le type des Bouches-du-Rhône,
tout brûler.
Là. Ouais. Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Alors c'est très coûteux en termes de jours de grève, c'est très coûteux en cas de condamnation, parce que s'il se met à brûler des préfectures, je pense qu'il va avoir quelques comptes à rendre.
Pardon, ah mais son discours est terrible.
La radicalisation, on ne sait, vous savez, quand on entame une révolution, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Oui. Donc quand on dit on va aller brûler des choses, on ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Donc de toute façon, ça va s'arrêter parce que pour le coup, le gouvernement serait alors très légitime pour faire cesser la chienlit, pour arrêter le bazar. Et avec les moyens qu'il faudrait pour faire revenir ce que les Français adorent, c'est-à-dire la loi et l'ordre.
C'est fini, c'est plié finalement, Anne-Sophie Saint-Père, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ou alors il faut continuer la mobilisation comme le souhaitent certains leaders syndicaux?
Alors déjà, quand on regarde l'histoire des mobilisations, il y en a qui ont continué après des votes. Par ailleurs, je m'interroge un peu sur cette manière de faire de la politique, d'espérer d'aller le plus vite possible pour qu'ensuite ça s'arrête et on passe à autre chose. La politique, c'est pas de la communication, c'est pas des séquences de la communication, ça a un impact concret sur les gens. Là, il y a eu 8 manifestations, à plusieurs reprises, il y a eu plus d'un million de personnes dans la rue, et ça, c'est le décompte de la préfecture, hein, pas des syndicats. Et puis très concrètement, les travailleurs, ils vont devoir travailler 2 ans de plus. Et ça, ça va rester. L'essentiel, c'est quand même le cœur de la réforme. Et cette colère sociale, elle va rester, parce qu'en fait, on se rend compte, et on le voit très bien, que le coût, le prix de tout est porté par les travailleurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette réforme, il y a eu un cadeau qui a été fait, c'est de nouveau aux entreprises, avec le CDI senior, donc exonéré de cotisations familiales, donc ça veut dire pas de cotisations pour les aides au logement, pour les allocations adultes handicapés, et ça va bénéficier à toutes les entreprises, hein, pas que les petites PME qui galèrent. Ça va bénéficier
aux seniors qui trouvent pas de boulot.
Exactement. Ça va bénéficier aussi aux entreprises qui engrangent des milliards de profits de dividendes.
Donc, en fait, et aux seniors qui n'ont pas de boulot.
Mais il y a beaucoup d'autres manières. Bah, déjà, les seniors, ils préféreraient prendre leur retraite.
Bah, pas forcément. Non. À 55 ans, il y a plein de gens qui sont au chômage à 55 ans.
Tu avais dit que tu ne me coupais pas la parole. Ce que j'essaye de dire, c'est simplement qu'en fait, là, c'est très visible que le travailleur paye toujours et qu'il y a une colère immense dans le pays. Et ce qui est dramatique, il faut être très déconnecté pour ne pas le voir. Ce qui est dramatique, c'est le message qui a été envoyé. Parce que malgré les mobilisations massives, malgré les grèves, Le message a été, on ne fera rien, on ne bouge pas face aux mobilisations pacifiques. Donc, qu'est-ce qui va venir après? Ça ouvre la porte à quoi? Moi, ça m'inquiète énormément parce que je suis pas pour les contestations violentes, la radicalisation. Mais s'il n'y a aucun moyen d'être entendu autrement, qu'est-ce qu'on laisse à la population?
Le bulletin de vote.
Ouais, une fois tous les 5 ans. Avant la 5 dernière, là. Donc, franchement. Est-ce que cette réforme des retraites, quoi qu'il arrive, elle laissera une trace extrêmement forte pour vous, Fred Hermel? Ou alors, comme le dit Thierry, dans 15 jours, on sera déjà passé à autre chose?
Déjà, dans 3 ans, on en fera une nouvelle. Donc, voilà. Oui, parce que, vu comme elle a été tricotée, même au Sénat hier, en fait. C'est quasiment la réforme des retraites des LR. Hein. Et de toute façon, tant qu'on ne se sera pas attaqué aux régimes spéciaux, à la clause du grand-père, ça ne sera pas une vraie réforme. Donc, c'est clair. Après, pour sentir la mobilisation, c'est simple, c'est la fonction publique. La fonction publique, quand même, ça veut dire quelque chose. Vous savez combien ils étaient en grève hier?
5%.
Je crois même que c'était 3.
Dans la fonction publique, moins de 3%.
Ouais.
Ah oui, j'ai arrondi à ça.
Oui, mais parce que tu es généreuse.
Oui, exactement.
Mais c'était 3%. Donc
15%, donc voilà, 15% des SNCF.
Qui a le plus de propension à faire grève, la fonction publique, les profs, etc.
Ils ne seront pas touchés par cette réforme, grâce à la clause du grand-père.
En plus, il y a quelque chose d'important. Enfin, tu dis, tout le monde a travaillé 2 ans de plus, j'ai de la chance, moi c'est 3 mois. Donc, il ne faut pas dire que tout le monde va travailler 2 ans de plus. J'ai calculé, moi c'est 3 mois. Donc, voilà, enfin, parce que ce qui compte, en fait, le problème, et on revient, finalement, j'ai l'impression qu'on revient au tout début. C'est le nombre d'annuités, c'est tout. C'est le totem de 64, avant 65, passé à 64. Enfin, moi, il faut, voilà, c'est 63 ans de cotisation, 43 ans de cotisation qui compte. Donc,
Et on rappelle que l'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 63,6 ans. C'est absolument pas 62 ans. Donc, au final, en moyenne, ça rajoutera 4 mois.
Oui, mais aujourd'hui, si on travaille plus, on peut aussi toucher plus en termes de pension. Alors que là, il faudra travailler plus longtemps. Mais on n'aura pas de surcote quand on aura travaillé plus longtemps.
La surcote, elle est pas énorme quand même. Quand tu regardes aujourd'hui,
on perd quand même, c'est vrai,
la surcote. Moi, il se trouve que depuis un moment, j'ai commencé à regarder des choses. Et la surcote, franchement, ça vaut pas le coup de travailler 2 ans de plus.
On a Jacques qui patiente au standard et qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Jacques.
Bonjour Estelle.
Bonjour. Vous êtes d'accord ou pas avec Laurent Berger? Il faut continuer la mobilisation si la réforme est votée?
Non, pas du tout. De toute façon, comme l'a dit Fred, dans 15 jours, on n'en parlera plus, on sera passé à autre chose. Le mois de mai va arriver avec tous ces ponts, les gens ils seront focalisés sur autre chose et puis terminé.
Il va faire beau.
28 millions de travailleurs à peu près en France. Moi, le week-end dernier, le samedi dernier, j'ai pas vu 10 millions de contestataires. Les gens, ils sont tous pour la contestation, mais le samedi, ils vont pas, quand ils peuvent manifester, ils vont pas manifester. Donc pour moi, l'affaire, elle est réglée.
D'accord, donc finalement, le gouvernement a eu raison de maintenir son projet, quoi.
Bien sûr. De toute façon, il faut qu'on travaille plus, on va travailler un peu plus, et puis c'est tout. C'est pas.
Vous avez quel âge, Jacques?
Moi, j'ai 48 ans. Bon, moi, je compte partir à la retraite vers 65 ans. Voilà, c'est ce que je me suis fixé pour l'instant.
Oui, donc vous êtes tranquille, quoi. Vous pouvez même attendre une réforme en plus, quoi.
De toute façon, d'ici là, il y aura encore bien des réformes, donc.
Ouais, mais Jacques, il est fataliste, hein, mais.
Bon. Jacques le fataliste, d'ailleurs.
Exactement, tout à fait. Très bonne référence.
Sans fatalité, surtout. Sans fatalité, moi, j'ai pas. À part aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun parti politique d'opposition qui avait dit on reviendra sur la retraite, la réforme des retraites, si dans X années, on est au pouvoir. Jamais personne n'a fait.
Ah, Marine Le Pen vient de le faire ce matin. Enfin, elle n'est pas encore au pouvoir. Et le projet n'est pas voté, donc ça fait beaucoup de si, évidemment.
Voilà, ça fait beaucoup de si.
Merci Jacques, en tout cas, d'avoir donné votre opinion dans Estelle Midi. Sandra également est avec nous. Sandra qui nous appelle. Alors, on n'a que des Bretons aujourd'hui, de Pont-Croix,
bizarre,
dans Finistère. Bonjour Sandra.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Et il fait bon aussi en Bretagne Nord?
Alors, moi je suis dans le Finistère Sud, hein, donc c'est nord mais au sud. C'est un peu gris, hein. On a eu un peu de soleil, mais bon, ça tourne.
Il y a une perturbation qui arrive ce soir. Il y a une nouvelle perturbation qui arrive ce soir.
J'ai envie de vous dire, Sandra, ça va se lever. C'est quand même la phrase qu'on dit le plus en Bretagne.
Il fait beau plusieurs fois par jour, quand même.
Exactement. Sandra, à votre avis, la contestation va cesser ou pas du tout?
Alors, moi, je pense que la contestation risque de cesser et de s'essouffler au niveau de la réforme des retraites. Mais comme je disais dans mon message, je pense qu'on va on va au-devant de nouvelles contestations. Mais là, à mon avis, je pense que la grogne sociale, alors beaucoup la voient, mais pas les politiques. Et moi, je fais partie de ces gens qui travaillent depuis quand même plusieurs années. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'en ai bientôt 47.
Vous faites quoi, Sandra?
Moi, je suis claire de notaire.
D'accord.
Donc, je suis aussi impactée par la réforme, hein, parce que on a un régime spécial qui est très en très bonne santé et on veut nous l'enlever et on comprend pas pourquoi. À côté de ça, c'est toujours les mêmes personnes qui payent, qui triment. Nous, on travaille, on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je suis maman de 2 enfants, donc mes trimestres, ils vont me servir à rien. Donc voilà. Moi,
vous aurez une surcote de 5% normalement, Sandra.
Ouais, enfin la surcote.
Grâce au LR.
Si c'est pour partir à je ne sais pas quel âge à la retraite, moi je vais me manger 2 ans en plus. Donc je trouve.
Non, parce que ce sera 43 ans. Enfin, ce sera 43 ans d'annuité, Sandra. Vous avez commencé à 20 ans. 43 ans, c'est 63 ans. Vous partirez à 63 avec une surcote de 5%.
Au lieu de 61,5, 62. Mais bon.
C'est vrai.
Après, je pense que la majorité des Français est d'accord sur le fait de l'allongement des cotisations, mais je pense que c'est surtout cette question d'âge légal. Qui est un petit peu bête et méchante en fait.
Et oui. C'est ça. Il fallait garder les annuités, mais là tout le monde est d'accord avec ça.
Sandra a tout à fait raison. Ce qui a été le blocage du gouvernement, c'est ce fameux âge à 64 qui a cristallisé tout.
Après, t'as les professions. Par exemple, tu prends les médecins qui commencent à 30 ans. C'est sûr que si tu prends juste les 43 annuités, tu les fais partir.
Il fallait moduler les deux choses, justement.
Il fallait faire un choix.
Plusieurs...
Ça s'appelle la retraite à la carte et la retraite à la carte. Et là, ce n'est plus la retraite par répartition. Et donc, évidemment, c'est un autre système.
La retraite par point
de... Bah oui, mais c'est un autre système de retraite. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Écoutez, merci Sandra d'avoir appelé. Puis on espère pour vous que ça va se lever au niveau du temps dans le Finistère Sud. Merci beaucoup. Sandra, on a fait une petite consultation sur notre compte Twitter, @estelle midi. La contestation ne s'arrêtera pas même si la loi est votée, d'accord ou pas d'accord avec Laurent Berger.
D'accord pour 70% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Et toujours pas de nouvelles depuis l'Elysée.
Ouais, c'est chaud. Dans le bureau d'Emmanuel Macron, qui reçoit tous les chefs de parti et la première ministre Elisabeth Borne. Dans un instant, on reçoit Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès dans Estelle Midi. On va parler du nouveau ChatGPT. Alors, vous connaissiez l'ancien ChatGPT, hein? Eh ben, il y a le nouveau. Et il est encore plus impressionnant que son petit frère. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1050, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et le progrès, il va extrêmement vite, Anthony. Vous nous avez parlé de ChatGPT il n'y a même pas deux mois. ChatGPT qui était déjà une révolution dans l'intelligence artificielle, et bien désormais il y a meilleur que ChatGPT, c'est ChatGPT 4, son petit frère.
Ouais, GPT-4, c'est vrai que ça va très très vite, et j'espère que je saoule pas tout le monde avec ce sujet, parce que j'en parle très souvent, mais vraiment, soyons conscients tous qu'on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. C'est en termes de moment technologique, il y a eu l'iPhone, et maintenant il y a ChatGPT, et je pense qu'on est en train de vivre une révolution absolument dingue qui va changer la façon dont on travaille, la façon dont on s'éduque, enfin plein de choses. GPT-4, c'est encore mieux que ChatGPT, qui était déjà très spectaculaire en termes d'articulation, de rhétorique, de façon de répondre extrêmement naturellement aux êtres humains, de façon de raisonner, j'allais dire presque comme un cerveau humain. Pour tester son intelligence, on lui a fait passer des examens, comme le ferait un étudiant, des examens compliqués, hein, le barreau aux États-Unis, c'est pour devenir avocat. Oui. Et ben, il se place dans les 10% des meilleurs étudiants, voyez, alors que ChatGPT, c'était dans les 10% les moins bons. C'est pour vous dire la marge de progression qui est absolument dingue. En termes de créativité aussi, quand on lui demande d'écrire un scénario, d'écrire une histoire, il est beaucoup plus naturel. On peut lui demander de faire de l'humour, par exemple, ce qui était très difficile avant. Enfin,
voilà, très plan-plan.
C'était très plan-plan. Là, c'est beaucoup mieux. On lui demande un poème, une chanson. C'est absolument dingue. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est qu'on lui a donné des yeux. Il est capable aujourd'hui d'analyser des images. Ça, c'est une petite révolution. C'est-à-dire, vous lui montrez un dessin humoristique, par exemple, que vous n'avez pas compris, et vous lui demandez, explique-moi pourquoi c'est drôle. Il vous explique pourquoi c'est drôle.
Et vous lui montrez comment?
Eh ben, vous lui montrez, en fait, vous lui téléchargez l'image, tout simplement.
Et
voilà, vous téléchargez l'image, une image sur Internet, vous lui donnez le lien. Et voilà, il y avait un exemple. Alors, là, c'est pas une image humoristique, mais par exemple, on lui demande, on voit des ballons de baudruche qui sont reliés au sol par des ficelles. Et on lui demande, qu'est-ce qui se passerait si je coupe les ficelles? Et elle va répondre, les ballons vont s'envoler. C'est-à-dire qu'elle va.
Merci, j'ai pas besoin de dire.
Mais parce que vous êtes un humain, mais vous vous rendez compte la capacité de. Je me suis mal exprimé. Mais si, Thierry l'a compris.
Mais oui.
Mais pour une machine, elle doit comprendre d'abord qu'il y a des ballons dans l'image, qu'il y a une ficelle, et faire la relation entre le fait de couper la ficelle et le fait que les ballons s'envolent.
Quel est l'intérêt de demander à chaque.
Mais non, mais c'est pour vous donner pour vous expliquer qu'elle résonne comme. Mais non, elle résonne comme un humain, en fait. C'est ça le truc qui est absolument dingue. Voilà. Alors après, sur les dessins humoristiques, c'est vrai que c'est peut-être plus parlant.
Oui,
il y avait un truc où, par exemple, on montrait un dessin, on montrait une photo où quelqu'un essayait de charger son iPhone avec une prise HDMI, une très grosse prise. Voilà. Et vous lui demandez, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que il y a un problème sur cette image? Bah ouais, mais enfin.
Bah, vous avez pas besoin de ChatGPT pour.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très spectaculaire.
Une machine comprenne ça, c'est incroyable.
Mais c'est ça. Non, ça vous impressionne pas.
Non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça va me servir.
Oui, alors c'est vrai.
Vous connaissez mon 1 hein.
Vous avez raison. C'est un petit peu plus terre à terre. C'est une très bonne question. Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que GPT-4 va s'intégrer dans les applications de la vie quotidienne. Tiens, par exemple, un truc tout bête, vous êtes devant votre frigo, vous prenez une photo du frigo, il va vous proposer des recettes avec les ingrédients qui se trouvent dans votre frigo.
Ça, c'est pas mal.
Une application qui s'appelle. Peut-être, après, ça dépendra des frigos, mais une appli qui s'appelle Be My Eyes, qui est destinée aux malvoyants, qui est géniale. C'est une appli, en fait, qui va décrire le monde qui les entoure aux personnes malvoyantes. Avec la caméra du téléphone, il suffit de la pointer devant soi. Et bien, en fait, on va intégrer GPT-4 dans cet outil et, en fait, il va servir d'assistant virtuel pour les personnes malvoyantes. malvoyante. C'est-à-dire, vous pointez, bah, par exemple, pareil, le frigo, le litre de lait, je suis malvoyant, je sais pas si mon litre de lait est périmé. Et ben, l'IA va me dire, il est périmé. Mais non, mais si, ben, c'est des problèmes de la vie quotidienne pour des personnes malvoyantes, je vous assure. Voilà, c'est très concret. Vous allez à la salle de sport, vous savez pas si c'est le vélo elliptique ou si c'est le tapis de course, ben, il va vous dire quel.
Vous allez vite vous en rendre compte, si je
me permets. Ça, c'est vrai. Oui, mais enfin, c'est mieux de le savoir avant, la limite. C'est mieux de le savoir. Un autre exemple, c'est une application d'apprentissage des langues qui s'appelle Duolingo, qui existe depuis longtemps, qui va intégrer GPT-4. Et en gros, vous allez pouvoir discuter, bah, par exemple, avec un japonais virtuel, comme si c'était un vrai japonais. Donc voilà.
Pourquoi je ferais ça?
Bah, parce que vous avez envie d'apprendre le japonais. Donc vous l'apprenez de manière théorique, et puis ensuite vous avez la discussion réelle, il va vous corriger vos fautes, comme si vous discutiez, comme si vous avez un prof dans votre poche, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Et alors le dernier exemple, alors c'est un petit peu plus pointu, mais c'est hyper spectaculaire, c'est ce qu'on voyait à l'instant. C'est pour créer par exemple des sites internet. Quand je vous dis ça va transformer tous les métiers, par exemple le codage informatique, il y a un gars qui a un petit croquis sur une page comme ça, à l'arrache, avec des petites pattes de mouche, il le prend en photo avec son téléphone, il dit GPT-4, fais-moi un site internet à partir de ça. Et le site internet est codé instantanément. Par exemple,
c'est incroyable.
C'est dingue. C'est pour un vendeur, un commerçant en ligne, par exemple, qui veut se faire son site internet, bah là, il aura juste à dire, voilà, je veux ça, ça, ça. Il le dessine vite fait. Et en fait, il a son site qui est fait en deux secondes, quoi.
Ça lui coûte zéro.
Et ça lui coûte zéro.
Ça, c'est bien, ça.
Alors après, il y a des versions payantes, pour GPT-4. Bon, il y aura probablement des systèmes d'abonnement. Mais enfin, globalement, ça coûtera pas très cher de toute façon. Enfin, c'est un truc de dingue. Ça va tout changer, vraiment.
Ben merci beaucoup Anthony Morel d'être venu nous parler de cette révolution. On parle de quoi demain?
Demain on va être plus terre à terre pour le coup. On va parler de je vous ai fait une petite sélection d'applications qui permettent de faire des économies quand on fait ses courses.
Ah voilà. C'est bien ça. Ouais, voilà. J'aime bien les trucs terre à terre.
Mais je sais, mais moi aussi, il faut alterner.
Et ben on alterne. Merci beaucoup Anthony, tous les jours 12h50 dans Estelle Midi, et puis bien sûr en podcast à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur vos applis de podcast. Dans un instant, on parle immobilier et écologie. L'Union européenne qui va obliger désormais les propriétaires à rénover leurs logements avant de les vendre. Bonne ou mauvaise idée? On attend vos réactions, vos appels au 3216. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.